Bonjour à chacun. Alors, c'est toujours une joie d'être là, mais en même temps un défi. Et la semaine passée, Mathieu a parlé de Dieu le Père, qui pourvoit, qui promeut et qui protège. Et c'est marrant parce que moi, j'avais vraiment à cœur de parler de Jésus et de notre relation en fait avec Jésus. Et juste pour introduire très rapidement, je voulais faire une petite, c'est pas une scénette, c'est juste une image figurée. Alors déjà, je suis très content, même si merci à la technique, mais pour une fois, j'ai pas fait de vidéo projection. Donc, je dis merci Seigneur. Parce que c'est vrai que souvent, je m'appuie quand même beaucoup dessus, et là, pas du tout, donc ça fait plaisir. Voilà. Du coup, est-ce que je peux demander à Olivier de t'approcher, et Hélo aussi, dans un premier temps? Je voulais juste imager. Donc, Olivier, est-ce que tu peux te mettre ici? Alors, je voulais imager notre relation avec Dieu et avec Jésus, qui est souvent présentée dans la Bible comme une relation d'amour. D'accord? Où, en fait, l'Église, nous, qui faisons partie de l'Église, on représente l'épouse de Christ. Alors, du coup, j'ai demandé à Olivier et Lou, un couple, de représenter ce couple que nous formons, en fait, du coup, avec Jésus. Nous tous, nous sommes les membres de l'Église et cette Église forme l'épouse du Christ. Donc voilà, je pose la couronne sur Olivier, mais c'est symbolique, hein, bien sûr. Voilà, donc Olivier représente Jésus et Élodie représente chacun de nous, d'accord, l'épouse de Christ. Et moi, dans ce trio, j'ai envie de dire, je représente le Saint-Esprit. Ok, il y a aussi Dieu le Père, je ne l'ai pas figuré là, mais on aurait pu mettre Antoine comme Dieu le Père. Voilà. Mais voilà, j'ai épargné Antoine. Et du coup, en fait, juste pour figurer le Saint-Esprit qui vient s'approcher de l'épouse, d'accord, qui vient orienter ses regards vers son époux, d'accord, et en même temps, le Saint-Esprit, il connaît le cœur de l'époux, il sait comment l'époux aime son épouse, il va écouter, vous voyez, ce que l'époux a à dire à son épouse, et ce que aussi bien sûr Dieu le Père, et il va rapporter à l'épouse. Il a vraiment un rôle de conseiller, c'est écrit dans la Bible, qui nous conduit dans la vérité. Alors il y a vraiment un chemin sur lequel on marche, okay, en direction de l'époux. Voilà. Est-ce que Sam, tu peux venir, et Antoine? Et dans cette marche, parfois, en fait, même si l'épouse est poussée par le Saint-Esprit, accrochée au Saint-Esprit en direction de Jésus, eh ben, parfois, il va y avoir des choses qui vont un petit peu... Ils ont le mauvais rôle, désolé. Et il y a quelque chose qui va un peu détourner son attention, si vous voulez, de son époux. Voilà. Et merci, Olivier. Merci. Voilà, c'était vraiment l'introduction que je voulais faire, juste pour figurer cette relation qu'il y a entre Jésus et nous. C'est une relation d'amour. Et c'est Jésus même, il a posé la question à Pierre, il lui a dit « Pierre, m'aimes-tu ?» Vous voyez, c'est pas de manière détournée, c'est direct. « M'aimes-tu ?» Et je remets le contexte, il y avait Jésus qui était ressuscité, il s'était déjà montré deux fois à ses disciples, puis là il n'était pas là avec eux, on ne sait pas trop où il était, ce n'est pas précisé, mais il n'était pas là. Et en fait les disciples sont un peu désabusés, ils ne savent plus trop, eux ils attendaient Jésus comme libérateur, comme celui qui allait les libérer des Romains, et là Jésus n'est plus là, donc ils retournent, ils ne savent pas trop quoi faire, ils retournent à la pêche, puis ils font une pêche infructueuse, ils n'attrapent rien, une nuit de fatigue, lasse, voilà, épuisé. Et c'est à ce moment-là que Jésus revient, qu'il fait un miracle, cette pêche miraculeuse, et qu'il pose ensuite cette question quand enfin Pierre le reconnaît, il lui dit « Mais m'aimes-tu ?» Et il pose la question trois fois « Pierre, m'aimes-tu ?» Et en fait, cette question, j'ai envie qu'on se la pose aujourd'hui. Samuel, m'aimes-tu ? Jonathan, m'aimes-tu ? Myriam, m'aimes-tu ? Pas moi, mais c'est Jésus. Ok. Et... dans Proverbe 85, 17, c'est écrit « J'aime ceux qui m'aiment ». Vous voyez, c'est un amour qui est exclusif. Il y a « J'aime ceux qui m'aiment ». Jésus répondit aussi dans Matthieu 22, quand on lui demande « C'est quoi le plus grand commandement ?»« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est vrai que, en fait, j'ai réalisé récemment que, en fait, on ne peut pas aimer notre prochain comme nous-mêmes si on n'aime pas, si on n'aime pas le Seigneur. Parce qu'en fait, c'est le Seigneur qui nous donne la capacité d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce que sinon, en fait, sincèrement, on n'y arrive pas. Vous voyez, donc le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est vraiment le premier des commandements pour moi qu'il faut, dans lequel il faut rentrer. Et du coup, je repose cette question, m'aimes-tu ? Et vous avez vu, Elo, elle a été comme perturbée un petit peu en tant qu'épouse de Christ. Elle a été détournée de la concentration qu'elle avait sur son époux, sur Jésus. Et du coup, ce matin, c'était un peu de voir qu'est-ce qui pouvait nous couper dans notre relation avec Jésus, les différents points qui pouvaient nous couper un petit peu. Et je vous parle de ce que moi j'ai vécu, hein. Je vous raconte pas des histoires, mais du coup j'ai un cahier dans lequel je note régulièrement ce que je vis. Et il y a des années où je note énormément de choses, et puis des années, là vous voyez c'est écrit 2023, 2024, 2025, il y a 3 ans sur un cahier. Il y a eu des années où il y a eu trois cahiers pour une année. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme s'il y a des moments où on vit énormément de choses et puis d'autres où on en vit peut-être un peu moins. Et c'est un peu le reflet justement de notre relation avec Dieu. Donc là, vous comprenez que j'en ai vécu un peu moins ces 3 dernières années. Vous voyez ? Et j'ai été dans une phase où c'était comme si j'étais à la recherche, j'étais conscient d'avoir de plus être complètement en relation avec mon bien-aimé, sans pour autant réussir à retrouver le chemin. Vous voyez, il y a Samuel Jonathan Valbon qui parlait justement de quand on se détourne de ce chemin et que on a besoin de retourner à l'endroit où on s'est perdu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette prêche. Et moi, ça m'avait parlé. Et la veille, c'était Baxter qui était là. Mais avant Baxter, moi, j'ai écrit dans mon cahier, donc je vous lis vraiment mes notes. Robert Baxter. Merci, Olivier. En marchant, je marchais autour de chez moi, je sens le Saint-Esprit me dire que je n'ai plus d'espoir. Et je sens effectivement que je ne crois plus. Je n'espère plus. Et je sens également que je n'arrive pas à sortir de cet état. Vous voyez, c'est vraiment, d'un coup, c'est comme si le Saint-Esprit, alors qu'on a l'impression, enfin, on n'a pas le sentiment d'avoir perdu notre espoir, enfin... on croit en Dieu, tout ça, c'est pas quelque chose que voilà, je me sentais pas désespéré, mais c'est comme si le Saint-Esprit m'ouvre les yeux, il me dit, mais regarde, en fait, tu n'espères plus vraiment, et tu ne crois plus vraiment. Et ce qui est assez fou, c'est que du coup, Robert Baxter, c'était le 25 octobre dernier, il parle justement sur l'espérance, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il a utilisé une phrase qui m'a beaucoup touché, c'est « espérer, c'est rêver, c'est ne pas s'arrêter à ce que l'on voit ». Voyez, et nous, souvent, on s'arrête à ce que l'on voit. Justement, on ne voit plus le Seigneur Jésus. On est comme coupé dans notre relation avec lui, et du coup, on n'arrive plus à espérer. Et on n'arrive plus non plus à rêver. Or, le Seigneur nous invite à rêver, il nous invite à voir grand. Parce que lui, il est grand et lui, il est tout puissant. Alors, j'avais vraiment ça comme introduction, comme premier point pour retrouver le chemin vers le Seigneur. C'était ce premier point d'espérer. Et excusez-moi, j'ai oublié de vous donner mon titre. Mais le titre, c'est « Comment tomber amoureux de Jésus ou retomber amoureux de Jésus ?» pour ceux qui ont perdu leur amour. Donc, le premier point, du coup, c'est espérer à nouveau. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes comme moi, peut-être sans s'en rendre compte, qui n'espèrent plus. Et c'est peut-être pas forcément de manière générale, mais des fois, c'est dans un domaine. On est rempli de foi, mais dans un certain domaine, c'est comme si on a perdu notre foi. On n'y croit plus parce que on a été déçu, peut-être. Il y a de l'incrédulité qui est venue se placer là. L'incrédulité, c'est assez sournois. Chez moi, ça se matérialise par une petite voix qui vient comme filtrer ce qui se passe devant moi. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un me dit « Dieu t'aime », moi, la petite voix va dire « Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. » Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre là. D'accord ? Là, je suis dans la misère. Je vois vraiment pas où Dieu m'aime. D'accord ? Ça, c'est la petite voix d'incrédulité. Vous voyez, qui va venir « Dieu peut te guérir. » Ah oui ? Et du coup, pourquoi l'autre, il est malade ? Et pourquoi ci et pourquoi ça ? Vous voyez, c'est une voix qui vient remettre en question la vérité biblique. Et l'incrédulité, elle est assez sournoise parce qu'elle est, c'est une petite voix, mais elle est tranchante et elle vient sans arrêt parasiter notre vision de la vérité de Dieu. Et je vous invite ce matin à vraiment faire taire cette petite voix qui vient remettre en question la vérité et la toute-puissance de Dieu. Et je vous rassure, je pense qu'on est tous confrontés à ça. Et d'ailleurs, dans la Bible, il y a un exemple, je pense que vous le connaissez, mais c'est dans Marc 9, le papa qui avait appelé, demandé aux disciples de prier pour son enfant, et en fait, les disciples n'avaient pas réussi à chasser le mauvais esprit. Et donc, Jésus arrive, et le père lui explique souvent, donc c'est dans Marc 9, 22, « Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Mais si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Vous voyez que l'espérance n'était plus, il avait perdu. En fait, les disciples avaient essayé de prier, ils n'avaient pas réussi. Voilà, et peut-être qu'on a beaucoup prié pour certains sujets et puis il ne s'est rien passé. Et comme si on croyait que Dieu n'était plus capable de guérir. Et là, en fait, Jésus lui rappelle la vérité. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Un autre texte pour illustrer que tout est possible, c'est l'histoire de la résurrection de Lazare. Moi, ça, cette histoire me bouleverse toujours. Et du coup, je vous lis rapidement, c'est dans Jean 11, 38. Donc, je vous passe l'histoire. Hein. Jésus, Lazare est mort et il a été enterré. Jésus se rend au sépulcre. D'abord, il voit Marthe, ensuite, il voit Marie. Et là, on se trouve juste après qu'il ait parlé à Marie. Dans Jean 11, 38, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. C'est un peu comme si Marthe, vous savez, elle était très proche de Jésus. Marthe, Marie et Lazare étaient très proches de Jésus, c'était des amis. C'est un peu comme si elle voulait le protéger de la honte suprême. Quoi. Attends, mais t'engages pas trop dans une voie qui est glissante. Jésus n'avait encore jamais ressuscité de mort. Attention, il pue déjà, quoi. D'accord ? Ça sent mauvais, quoi. Et y a des fois des situations où, humainement, ça pue. Y a des portes qui sont fermées et qui font bien d'être fermées. Vous voyez ? Enfin, pas qu'ils font bien, parce que c'est pas bien, mais en fait, elles sont gentiment... fermé, il y a des, comme là, il y avait une grotte avec une pierre, et il y a des choses qui sont comme cachées, qu'on ne voit pas humainement parlant, mais que dès qu'on roule la pierre, ouf, ça pue, d'accord ? Il y a des situations quand on voit, on ne peut pas se douter qu'à l'intérieur des personnes, ça pue. Et je vous donne quelques illustrations, ça peut être une maladie qui ne se voit pas, mais sans que vous le sachiez, en fait, la personne devant vous est condamnée. Vous voyez ? Il y a une situation qui, humainement parlant, ça pue. Il n'y a pas de solution. Ça peut être des situations financières catastrophiques, où ben là, c'est pareil, on ne le voit pas extérieurement, mais en fait, les comptes sont à vide. Okay ? Ça peut être des relations compliquées, où là aussi, on a peut-être essayé beaucoup de choses, mais il y a un froid, vous savez, la mort c'est froid, il y a un froid entre deux personnes et ça sent pas très bon. Ma fille l'a utilisé récemment en parlant d'une soirée entre des amis et elle disait il y a un froid en fait entre les amis, entre eux, et elle a dit elle-même ça pue. Oui, donc des fois les relations sont compliquées. Ça peut être une entreprise qui est au bord du gouffre, ça ne se voit pas, mais le patron lui sait qu'au fond, en fait, son entreprise, ça pue. Ça sent pas très bon. Ça peut être des couples qui, pareil, on ne le voit pas, il y a une belle façade, mais quand on ouvre la porte, quand on rentre, en fait, ça ne sent pas bon. Parce que la vérité, ce n'est pas ce qu'on voit. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, mais Jésus, ce qui est beau, c'est que lui, il dit « roulez la pierre ». Lui, on ne lui cache rien. Il sait toute chose. D'accord ? Et en même temps, il a la solution. Vous voyez ? Et c'est là où je voulais en venir. Il n'y a pas de situation trop pourrie pour que le Seigneur ne puisse pas intervenir. Il n'y a pas d'odeur qui pue tellement que le Seigneur ne peut pas tuer. Vous voyez ? Et quand Lazare il l'a appelé, il est sorti du tombeau, il ne sentait plus. Vous voyez, l'odeur de la mort l'avait quitté, quoi. Il était vivant. Okay, c'était un vivant qui était devant lui. Et je crois qu'il y a vraiment des morts, des choses qui sont mortes, des espoirs perdus, que le Seigneur veut ressusciter ce matin. Ça peut être dans un domaine particulier ou dans plusieurs en même temps. En tout cas, il y a des morts qui doivent sortir de leur tombe ce matin. Et vous pouvez juste écouter une parole ou dire « Seigneur, je choisis de croire que tout est possible à nouveau, même si, effectivement, ma situation est morte, même s'il n'y a pas d'espoir humainement. Je choisis de te faire confiance à toi, au Dieu de l'impossible, et dire que oui, tout est possible à celui qui croit. » Le premier point, donc, c'est espérer à nouveau. Le deuxième point pour tomber ou retomber amoureux, c'est déposer nos fardeaux au pied de Jésus. Et pareil, un matin, je l'ai écrit dans mon cahier, je me suis réveillé avec ce chant « Je laisse à tes pieds mes fardeaux ». Et c'est assez fou de se rendre compte que des fois, on porte plein de fardeaux. On se charge. Vous voyez ? Et comment je vais faire pour faire ça ? Et truc. Et on est en perpétuelle veille, vigilance, comme si en fait, c'était à nous de porter les fardeaux. Mais en fait, Jésus a dit « Déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux ». Vous voyez ? On n'a pas à les porter. Et ça demande aussi... d'avoir fait le premier pas, parce qu'on ne peut pas déposer nos fardeaux si on n'espère pas. Voyez, on a besoin d'espérer et ensuite déposer nos fardeaux. Mais ces fardeaux, il faut les déposer et ça demande aussi de l'humilité. Ça demande un lâcher-prise, de dire ben, « Seigneur, sincèrement, moi, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas, mais je choisis de déposer mon fardeau. » Ça peut être des combats qu'on mène contre nous-mêmes des fois, contre un caractère, contre peu importe. Dépose ton fardeau au pied de la croix. C'est le pas suivant qu'il faut faire après avoir espéré. Ensuite, il y a troisième point, c'est accepter la grâce de Dieu. Et là, je vais partager quelque chose que j'ai déjà partagé un matin à la prière. C'est l'illustration de Moïse lorsqu'il, vous savez, il frappe ce rocher. Et que suite à ça, Dieu lui dit, tu rentreras pas dans le pays promis. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça assez rageant de se dire que, mais Moïse, c'était l'ami de Dieu, il a parlé face à face, il a vu la mer ouverte, il a vu la nuée, il a vu la flamme de feu. Ça a été l'homme le plus patient de la terre. Okay, bon, c'est lui qui l'écrit, mais il a quand même dit, c'est l'homme le plus patient de la terre. Enfin, le gars, il est parfait. Et il fait une bêtise. Un jour, vous voyez, il donne un coup tellement il est agacé. Vous voyez, et eh ben, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Sincèrement, moi, je trouve ça un peu dur, quoi. Vous voyez. Et limite, un peu injuste. Quand même, le gars, il était top, quoi. Enfin, je ne sais pas s'il y en a un qui arrive à sa cheville. Franchement, donnez-moi le secret. Mais, en fait, Moïse vient illustrer la grâce et la loi. Moïse, c'est la représentation de la loi. Et tous nos efforts ne pourront jamais nous amener dans le pays de la promesse. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut être les meilleurs hommes. On peut être... des saints, mais en fait, ça ne donne pas accès. Parce qu'il y aura toujours une faute qu'on va faire. Toujours. On va pas réussir à remplir toute la loi. Vous voyez, Moïse, il a fait une écartade et il a été écarté. Et en fait, c'est vraiment le symbole que simplement par nos œuvres, on ne peut pas rentrer dans le pays de la promesse. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Jésus. Et celui qui a amené le peuple dans le pays de la promesse, c'est Yeshua, Josué. Et c'est le symbole de Jésus, vous voyez. Et Jésus, c'est la grâce. Ce n'est pas par nos efforts. On n'est pas capable par nos efforts. Mais on a besoin de recevoir cette grâce qu'on n'est pas capable, mais que par lui, on devient capable. Vous voyez, c'est la grâce qui est offerte à chacun de nous. Alors, ça, c'est vraiment le troisième point sur lequel le Seigneur est venu me chercher. Accepte la grâce que tu ne peux pas, par tes efforts, y arriver, mais simplement par ma force. Quatrième point, et ça, c'était vraiment quelque chose de fort que le Seigneur m'a donné comme une révélation, et ça m'émeut même en le parlant. C'est ce qu'on a fait ce matin. Et ça a été beaucoup dit avec Sam, il y a eu des prières. C'est louer Dieu, quoi qu'il arrive. Vous voyez, c'est pas attendre que les choses soient alignées. Non, c'est prendre une décision, une résolution. Moi, la première chose que je fais dans la journée, c'est louer Dieu. Vous voyez, quoi qu'il arrive, quel que soit l'état, mon humeur, quel que soit mon compte en banque, quelles que soient les annonces qu'on vient de m'annoncer, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe, je choisis de louer Dieu et de dire qu'il est au-dessus, qu'il est plus grand que tout. Et David, il dit dans le psaume 34, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche, toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Sa louange sera toujours sur ma bouche. Et du coup, assez simplement, j'ai voulu être très pratique, j'ai mis ça en pratique. C'est-à-dire, moi je raffole, je vous avoue, mon petit truc, c'est écouter des prêches. Donc je l'écoute beaucoup, je suis fan, j'ai plein d'orateurs différents, et voilà. Et bien là, j'ai vraiment senti qu'il fallait que, au-delà de tout ça, la première des choses, c'était la louange. Alors, quand je suis à la maison, ben, je me suis mis à mon piano tout seul. Mais quand je n'étais pas, et ce qui est quand même souvent le cas, eh ben, je mets mes petites oreillettes, clac, et je me branche sur la louange. Okay, et j'écoute une heure de louange. Et ce n'est pas écouter juste, c'est s'aligner en fait, avec Dieu. Vous voyez, jusqu'à ce qu'on sente que ouais, le Saint-Esprit nous a parlé, on a été connecté à Dieu. Vous voyez, quand elle perd cette connexion, l'Église, on a besoin de se reconnecter. Et c'est la louange, coûte que coûte, qui va nous reconnecter à Dieu. Et Dieu, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu cherche. Et moi, du coup, j'ai envie de dire, mais si tu cherches, je suis là, tu vois ? Ou est-ce que, du coup, s'il cherche, est-ce qu'il nous trouve ? Vous voyez, ben c'est dur quand même que Dieu, il cherche. C'est-à-dire que quand on cherche quelque chose, c'est qu'on ne le voit pas directement, si on ne le cherche pas. Vous voyez ? Donc, s'il cherche, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'hyper évident à trouver. Eh bien, est-ce que vous allez vous laisser trouver ce matin par le Seigneur ? Est-ce que vous allez prendre une décision de dire, ben, Seigneur, moi, je désire t'adorer. Comme on a dit ce matin, j'ai tellement aimé ces proclamations. Oui, je vais te louer coûte que coûte, quel que soit le prix, louer Dieu en premier. Je me suis trompé dans l'ordre de mes pages, excusez-moi. Donc le Père cherche, est-ce que je peux lui dire que je suis là ? En fait, ce qui est beau, c'est que quand on fait ça, quand on dépose nos soucis, quand on place notre espérance en Dieu, quand on accepte la grâce de Dieu, quand on choisit de le louer, eh ben, on retourne dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais quand on a été séparé, le Saint-Esprit a été séparé de l'Église, de l'épouse à qui il montrait le Seigneur, ben, en fait, il y a comme une séparation, enfin, il y a quelque chose qui l'éloigne, du coup, et il a besoin on a besoin de retrouver une intimité avec le Saint-Esprit. Voyez, et ben, tout ça, ces quatre points que je viens de vous présenter vont vous amener à une intimité avec le Saint-Esprit. Et ce qui est beau, c'est que le Saint-Esprit, en fait, il vient faire une œuvre que personne ne peut faire. Personne ne nous connaît mieux que le Saint-Esprit. Et il vient nous sanctifier, il vient nous purifier. Et je vais appeler mon frère Sam, si tu peux venir, une autre image. Donc cette fois-ci, Sam, c'est le Saint-Esprit. voyez ? Est-ce que vous le voyez ? Non, on ne le voit pas. Pourquoi ? Parce que je suis devant, d'accord ? On ne le voit pas parce que je suis devant. Et je peux prendre mon aise, d'accord ? Gonfler la poitrine et dire « Regardez-moi, je suis là ». Le Saint-Esprit est avec moi, mais on ne le voit pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je peux même m'approcher de ma femme et prier pour elle, parce qu'elle est malade, d'accord ? Je prie, et en fait, quand je prie pour quelqu'un, ça se passe dans le monde spirituel, d'accord ? Mais à votre avis, le monde spirituel, il voit qui ? Il voit le Saint-Esprit ? Alors le Saint-Esprit, il révèle Jésus, je vous rappelle. Hein. Il voit le Saint-Esprit ou il voit moi ? À votre avis, là, quand je prie et que je suis gonflé à bloc. Ouais, il n'y a personne qui répond. Le Saint-Esprit, pardon, les esprits, ils me voient moi. Okay. Par contre, si je reprends ma place, et que je dis, ben, Seigneur, je te donne mes mains. Je décide de plus bouger mes mains. Je les, voilà. Et je décide de laisser le Saint-Esprit agir à travers mes mains, vous voyez ? Ce n'est plus mes mains qu'on va voir en premier, ce sont les siennes. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, ça c'est une première étape. Et dire, ben, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je choisis de te laisser œuvrer. Maintenant, je peux m'abaisser. Non, toi, tu ne t'abaisses pas. Je peux m'abaisser. Ok ? Et là, on va voir un peu plus la présence du Saint-Esprit en moi. Je peux m'agenouiller. On va le voir encore davantage. Et ça, je le fais quand je suis dans la présence de Dieu, quand je le loue, quand je l'adore et que je lui dis, mais Saint-Esprit, c'est toi que je veux élever. Seigneur Jésus, c'est toi qui es mon roi, c'est toi qui es mon Seigneur. Je peux encore carrément m'allonger par terre. Okay ? Et là, ben, je disparais totalement. On ne voit plus que lui. Et à ce moment-là où je disparais, ben, cette fois-ci, c'est lui qui est vraiment visible, et moi je suis caché derrière lui, vous voyez ? Et là maintenant, si je vous dis la même question que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce que c'est moi ? C'est lui. Et maintenant, si, encore une fois, le Saint-Esprit, c'est lui qui me conduit et qui m'amène à prier pour ma femme, je vais prier au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez que ma femme va être guérie ou pas ? Oui, parce que je suis rempli du Saint-Esprit et parce que, en fait, le Jonathan, il a totalement disparu. Il a laissé la place totalement au Saint-Esprit. Merci, Sam. Voilà, c'était « Il faut que tu grandisses et que je diminue ». Les amis, vraiment, le Saint-Esprit m'a repris par rapport à ça. Sur le fait qu'il y a des choses en nous qui font qu'il ne peut pas, en fait, on est trop vu, vous voyez ? C'est nous qui sommes vus, c'est pas lui. Lui, il est caché, mais il a besoin d'apparaître, d'être en pleine lumière. C'est lui qui doit être en pleine lumière et pas nous. Et la première des choses sur lesquelles le Saint-Esprit m'a repris, c'est des sentiments où, en fait, j'avais de l'amertume en moi. Et l'amertume, ça vient des fois quand il y a un manque de pardon. Des choses que je vais garder, des vexations, des frustrations, différentes choses qui vont faire que ben, je vais avoir en fait une sorte d'amertume en moi. C'est pas une sorte de l'amertume en moi. Et il y a ce verset dans Éphésiens 4, 26 qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Donc, vous voyez, quand on est en colère, quand on a de l'amertume, on donne un accès au diable. Donc, physiquement, en fait, vous allez vous coucher. Donc, il parle d'aller se coucher quand vous ne laissez pas le soleil se coucher. Donc, nous, on va se coucher, mais en fait, on a donné un accès au diable. Vous voyez, donc, dans cette union avec le Seigneur Jésus, bah, clac, on a une rupture. Parce que quand il y a le diable, il n'y a pas Dieu. Hein. Il ne peut pas y avoir deux maîtres en même temps, vous savez. Et donc, bah, on a laissé un accès au diable. Et le Saint-Esprit, première des choses qui m'a amené à lâcher, c'est l'amertume. Okay ? Pardonner. Pardonne ton prochain, comme Dieu t'a pardonné à toi. Remets la faute. que la personne a faite, peu importe ce que c'est. Il y a des fautes qui sont des fois très dures, et encore une fois, à pardonner. Quand on dit « je laisse à tes pieds mes fardeaux », Seigneur, je n'arrive pas à pardonner, mais viens m'aider. Moi, je n'arrive pas, il m'a fait trop mal cette personne, elle m'a fait trop mal, elle était trop loin, ça a été trop dur. Mais Seigneur, aide-moi, le Seigneur viendra vous aider. Le deuxième point sur lequel le Saint-Esprit m'a appelé à mourir, c'était sur l'orgueil. Et l'orgueil, on en a tous, de manière plus ou moins développée. Et c'est vraiment un ennemi, parce que je n'ai plus le verset en tête, mais le Seigneur dit qu'il hait les orgueilleux. En fait, il résiste, ouais, mais il y a aussi une haine, en fait. C'est dans Proverbe, il y a un verset qui dit carrément, il y a comme de la haine pour le regard hautain, celui qui a le regard hautain, celui qui est orgueilleux. Et donc il y a vraiment quelque chose qui vient quand on a une réversion, oui, c'est pas, Dieu, il ne peut pas rester quand il y a de l'orgueil, il ne reste pas, voyez, c'est pas compatible. Et pour illustrer, j'avais le texte de Luc 18 pour montrer quand même que nous-mêmes, en tant que chrétiens, on peut en avoir de l'orgueil, parce que voilà, nous ne sommes que des hommes. Luc 18, vous savez, c'est la parabole que Jésus présente sur les deux hommes qui montent au temple pour prier. Donc Luc 18, 10, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Donc un pharisien, je veux dire, c'est un homme de Dieu, hein, c'est pas n'importe qui. Il y a déjà du level, quoi. Le pharisien, debout, vous voyez, il priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Seigneur, merci. Donc j'extrapole, hein, c'est pas dans la Bible. Seigneur, merci parce que je suis plus intelligent que les autres. Je ne suis pas comme les autres. Merci Seigneur parce que je suis là tellement plus belle que les autres. Merci pour cette beauté que tu m'as donnée. J'ai vraiment de la chance quand je vois les autres, quand même, je me dis les pauvres. Merci Seigneur parce que j'ai la réussite, je suis capable, j'ai un diplôme tellement bien au-dessus des autres. Mais waouh, wow. Seigneur, je suis plus fort. Vous voyez, le gars, il a un. Seigneur, je ne suis pas comme le reste des âmes. Seigneur, je suis plus fort. Je pourrais en rajouter des tonnes. Hein. Je laisse chacun trouver votre faille. Je te remercie Seigneur parce que j'ai mieux compris que les autres. Vous voyez, même moi, ça c'était moi. J'ai mieux compris que les autres certaines choses bibliques, vous voyez. On a comme un orgueil. Moi, je suis quand même... Ah, il n'a pas tout compris, hein, le pauvre. Ce n'est pas de sa faute. Je n'ai pas la même démarche que celui-ci. Vous voyez, il y en a qui marchent un peu... franchement, une démarche, on dirait, je ne sais pas... Non, moi, je marche avec la classe, vous voyez. Quand je marche, voilà, c'est smart. Vous voyez, on peut trouver plein de choses pour lesquelles on est mieux que les autres. Et ça, c'est de l'orgueil. Vous voyez, lui dit, je ne suis pas comme le reste des hommes. Et en fait, dans 1 Corinthiens 4, 7, c'est écrit, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est quelque chose qu'on t'a donné. Vous voyez, donc, tout nous vient de Dieu. Et il continue, le pharisien, en disant, bah, je ne suis pas comme le reste des hommes. Eux, ils sont ravisseurs, ils sont injustes, ils sont adultères, ou même comme ce publicain. Moi, je jeûne deux fois la semaine. Vous voyez, quand je disais du high level, c'est du high level, quoi. Deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Il y en a qui ne donnent pas sur tous les revenus, mais lui, c'était sur tous les revenus. L'homme parfait, la loi. Vous voyez, encore une fois. Je donne la dîme sur tous mes revenus. Et la suite du verset, du texte, il dit « Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. » Mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et Jésus, il continue en disant « Je vous le dis, celui-ci, en parlant du publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. » C'est-à-dire que l'autre, ben, il n'a pas été justifié. Il a jeûné deux fois. Il a donné la dîme sur tout, et puis là, il n'est pas justifié, quoi. Donc, vous voyez que l'orgueil nous sépare de... C'est vraiment quelque chose à traiter avec urgence, j'ai envie de dire, dans chacune de nos vies. Et je vous laisse demander au Saint-Esprit, Seigneur, sincèrement, est-ce qu'il y a de l'orgueil en moi? Et s'il y en a, Saint-Esprit, je vous garantis qu'il va vous le montrer, et ça fait mal. Hein. Quand on se rend compte de ce qu'on est, ça fait pas toujours du bien. Mais c'est pour le bien. Le Saint-Esprit n'est jamais là pour nous enfoncer. C'est toujours pour nous amener plus proche de lui. Et que sa gloire se manifeste toujours plus dans notre faiblesse. D'ailleurs, Paul, vous voyez, lui aussi, il a eu une écharde dans la chair. Ben parce que Paul, c'était quand même... c'était pas rien, quoi. Et pour pas qu'il s'enorgueillisse, eh ben, il a eu une écharde. Vous voyez. Et des fois, il y a le verset, vous savez, qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et des fois, je crois que... moi, j'ai eu le sentiment que Dieu me résistait. Et ben, je crois que la première des causes, c'est mon manque d'humilité. Alors, je vous encourage chacun à vous placer honnêtement et sincèrement devant Dieu, à dire, Seigneur, est-ce qu'il y a de l'orgueil en moi? Est-ce qu'il y a de l'orgueil en moi? Moi, je ne suis pas là pour vous dire, toi, d'ailleurs. Moi, déjà moi, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Dans Matthieu 6, il écrit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est quoi leur récompense? Tous les hommes disent, waouh, lui, pétard, il assure. T'as vu, il a jeûné deux fois. Voilà, il a déjà sa récompense. Mais plutôt, va t'enfermer dans ta chambre, c'est la suite du verset, va t'enfermer dans ta chambre là où personne ne le voit. Ok? Et rends grâce à Dieu, mais seul dans ta chambre. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin d'une intimité avec Dieu. Il y a aussi... il y avait aussi l'orgueil de Marthe, moi, qui m'a arrêté. Alors, je dis l'orgueil parce que souvent, on voit Marthe comme la femme qui agit beaucoup. Vous savez que Jésus reprend. Et en fait, on a un peu l'impression aussi que Marthe, c'est comme si elle faisait beaucoup de choses pour se faire remarquer. Vous voyez? Oh, Seigneur Jésus, t'as vu un peu tout ce que je suis en train de faire? Non, mais oh, et l'autre, là, elle fait rien, quoi. Attends, mais quand même, c'est pas juste, quoi. Et pareil, alors, Seigneur, pourquoi je suis pas guéri? Ben, quand même, quoi. Je veux dire, t'as vu combien je te prie, je lis la Bible, tout ce que je fais, Seigneur. Et pourquoi ça m'arrive, ça? Enfin, je veux dire, j'ai pas mérité ça. Vous voyez, on se retrouve dans cette situation où on donne des leçons à Dieu pour lui dire, ben, comment il aurait dû faire? En tant que Dieu souverain, il n'aurait pas dû faire comme ça. Vous voyez, c'est notre orgueil en fait qui nous pousse, encore une fois, à dire, mais oh, non, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et Dieu vous élèvera. Samuel chantait tout à l'heure, ta bonté n'a pas de fin et durera jamais. Ça, c'est la vérité. Dieu veut nous élever, Dieu veut nous faire... Nous rend toujours plus proches de lui. Mais il peut pas, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, comme tout à l'heure avec le Saint-Esprit, quand Samuel était derrière moi. Quand on prend toute la place, le Saint-Esprit n'a pas de place. En fait, on a juste besoin de diminuer pour que lui puisse vraiment prendre sa place. Et dans le fait que Dieu ne nous doit rien, il y a cette image qui m'a aussi beaucoup interpellé, c'est dans Daniel. Vous savez, quand les jeunes sont condamnés, Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont condamnés à la fournaise. Et que le roi fait une dernière tentative en leur disant, mais il faut que vous vous incliniez devant la statue, sinon je vous mets au feu. Là aussi, la situation, elle pue, hein, quand même. Vous vous prosternerez, donc c'est dans Daniel 3,15, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Vous voyez, ils disent peut. C'est pas, ils n'ont pas dit il doit. Vous voyez, c'est pas la nuance entre l'orgueil et la grâce. Il peut, s'il le veut. Ok, il est tout puissant. Il peut nous délivrer. C'est pas il doit. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, il se soumet à la volonté de Dieu. Sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Vous voyez, il y a des gens qui ont une résolution de faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive, et aussi de ne pas ordonner des choses à Dieu. Et on a vu que, bien sûr, c'était la volonté de Dieu qui ne soit pas brûlée. Et grâce à leur foi, en fait, tout ce pays ensuite s'est tourné vers le Seigneur. Alors, comme David, je vais m'arrêter parce que c'est déjà midi 5 passé. J'aimerais dire, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours sur mes lèvres. Et vous rappelez que dans cette relation avec le Seigneur Jésus, on a besoin d'espérer contre toute espérance, même s'il n'y a plus d'espérance. On a besoin de déposer nos fardeaux. On a besoin d'accepter la grâce de Dieu, de louer Dieu, quoi qu'il nous en coûte. Et ensuite, de mourir à nous-mêmes. Alors quand je dis mourir à nous-mêmes, ce n'est pas nous tuer, bien sûr, mais c'est juste de laisser Dieu grandir, nous soumettre à sa volonté dans notre vie. Alors j'aimerais juste faire un appel pour ceux qui le désirent. Ouais, Sam, je veux bien que tu dises d'ailleurs « Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel » le chant « Bénis l'Éternel » sans vouloir te... Avant toute chose, j'aimerais vraiment inviter quelqu'un parce qu'on ne peut pas être, quoi qu'il arrive, dans cette relation avec le Seigneur Jésus si on n'a pas avant tout donné notre vie au Seigneur Jésus. Et j'aimerais, on va tous se lever, comme ça évite qu'on voit, mais j'aimerais vous inviter, si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur, si quelqu'un sait qu'il n'est pas amoureux de Jésus, eh ben, je t'invite ce matin à faire le choix de dire « Seigneur, je désire me soumettre à toi ». C'est mon premier appel. Deuxième appel, c'est... pour les personnes qui n'ont plus d'espérance. Donc je fais tous les, je vais nommer et puis après vous pourrez venir et on pourra prier pour vous si vous le désirez. Les personnes qui n'ont plus d'espérance, il y a une situation qui est bouchée, qui est sans issue humainement parlant. Il n'y a plus d'espoir. J'aimerais vous dire ce matin, il y a un espoir. Viens déposer tes fardeaux au pied du roi. Viens recevoir la prière, quelqu'un va prier. Viens verbaliser peut-être ce pourquoi tu as besoin de qu'on prie pour toi, l'espoir que tu as besoin de retrouver. Mais le Seigneur attend que tu fasses aussi un pas vers lui, que tu appelles au secours. Viens appeler ce matin au secours. Enfin, j'ai cet appel pour, j'ai envie de dire presque chacun de nous, cette image de l'épouse. Vous savez, Jésus, il revient chercher son épouse. Et moi, j'ai envie de dire, pardonne-moi, Seigneur, d'avoir été une épouse qui t'a cherché parfois plus pour tes cadeaux, plus pour les guérisons, plus pour les bénédictions que pour qui tu es vraiment. C'est comme si c'est une épouse qui s'est mariée un peu par intérêt. Vous voyez, parce qu'il y avait un but derrière. Une épouse qui peut être aussi capricieuse, exigeante, toujours insatisfaite. Une épouse aussi qui attire les regards sur elle, au lieu de les attirer vers son époux, qui cherche l'attention des serviteurs, vous voyez, que les serviteurs la regardent elle, plutôt que le Christ. Ça, c'est vraiment une prière qu'on, chacun de nous, on peut demander à, qu'on peut faire et dire, Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où on a attiré les regards sur nous, au lieu de les attirer vers toi. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai été dans la vanité, où j'ai attendu que les autres me regardent pour faire un geste, où j'ai fait des choses pour qu'on me voie, pour qu'on m'apprécie, mais pas pour que toi tu sois élevé. Seigneur, que vraiment ma vie te soit consacrée, que ce matin tu puisses être élevé dans ma vie. Seigneur, je veux que toi tu sois vu et que moi je diminue. Merci mon Dieu, parce que sans toi je ne peux pas le faire. Et Saint-Esprit, je t'invite vraiment dans la vie de chacun de nous. Viens nous montrer, viens révéler tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui sent pas bon, Seigneur, tout ce que tu n'aimes pas, tout ce qui vient cacher ta personne, Saint-Esprit. Pardonne-nous, Saint-Esprit, de prendre ta place, de prendre des décisions sans toi, de choisir à ta place, de t'amener à des endroits où tu ne voudrais pas aller. Mais laisse-nous être guidés par toi. Laisse-nous être conduits par toi. Oui, on veut te laisser toute la place. On chantait ce matin que tu es le Seigneur de nos vies, mais on veut vraiment te laisser toute la place, Saint-Esprit. Que ce soit toi qui sois vu en premier dans notre vie. Ta douceur, ton amour, ta lumière, Seigneur, au secours. Ce matin, j'ai envie de crier au secours. Viens au secours de notre orgueil. Viens au secours de notre incrédulité. Au secours, Seigneur Jésus. Au secours, Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur. On désire être proche de toi. On désire être aimé par toi. On désire t'aimer, Seigneur Jésus. Viens à notre secours, Seigneur Jésus. On a besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Je vous invite vraiment, si quelqu'un a besoin de la prière de manière personnelle, n'hésitez pas, pendant qu'on prend ces moments, n'hésitez pas à vous approcher. Et j'avais vraiment aussi ce matin, j'ai eu un petit rêve là, sur quelqu'un qui... je ne sais pas si c'est dans ce lieu ou quelqu'un que vous allez voir, mais j'avais vraiment le mot chamanisme. Un chaman, en fait, qui y a comme un commerce autour de ça. Et il y a comme des tracts qui sont distribués. Et en fait, le Seigneur voudrait dire à cette personne que il est centré sur lui, mais en fait, il faut qu'il se ressente sur la personne du Seigneur Jésus. J'ai vraiment le mot chaman et quelqu'un qui attire les regards sur lui, qui fait limite un commerce par rapport à ça. Alors c'est peut-être quelqu'un que l'un de nous va rencontrer cette semaine, mais j'avais vraiment ce mot qui doit détourner ses regards, décentrer ses regards sur lui, mais les centrer sur Jésus. Que vraiment tous les appels pour lesquels on l'a fait, que ce soit pour donner sa vie au Seigneur, que ce soit pour retrouver de l'espoir, je vous invite ce matin et on va prier pour vous devant.